Portez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Erdic vous donnera l'agenda de la semaine et nous vous donnerons chacun notre sportif 2018 pour terminer l'année en beauté. Enfin, nous recevrons Amir Abdou, le sélectionneur des Comores. Avec nous ce soir, Lucas Erdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Pour la dernière de l'année 2018.
Ah oui. Quelle tristesse.
On reviendra le 7 janvier pour terminer la.
C'est vrai.
Pour commencer l'année 2020.
Ouais. Oh, c'est chouette.
On fera la galette des rois.
C'est une bonne nouvelle.
Exactement, on fera la galette des rois sans faute. De toute façon, on sait très bien que. C'est Lucas le roi ici.
Ah ouais?
Oui, j'ai envie. C'est le king, Lucas.
C'est gentil.
Qu'est-ce que vous avez commandé pour Noël?
Mais rien.
Rien du tout.
Mais j'ai 30 ans, c'est fini maintenant.
Oh,
les cadeaux, c'est terminé. Si j'ai tout juste une paire de chaussettes, je m'estimerai heureux.
Mais
je, voilà, je fais les cadeaux maintenant. En plus, j'ai un salaire, tout ça.
Vous avez déjà mon cadeau ou pas?
Ouais, j'ai fait ça justement avant de venir.
Là, ouais.
J'ai fini à 15h, j'en ai profité.
Ouais. Donc,
avec les gilets jaunes, j'ai remarqué que tout le monde faisait ses courses en semaine du coup.
Ouais. C'est ça vrai. A redynamisé les centres en semaine. Quoi.
Du coup, ils sont embêtés le samedi. Ah ouais. Ils embauchent personne. Par contre, la semaine, ça carbure. Mais tant mieux. Hein.
Oui.
Il faut s'adapter.
J'aurai mon cadeau le 7 janvier. C'est ça?
Pas dit, hein. pas dit. Si je suis là, déjà, ce sera un beau cadeau.
Ah, ouais. Wow. Ouais. Vous serez là, il n'y a pas de problème. Maxime Brossard, ouais. Une petite idée sur les cadeaux
de moi, j'ai commandé une voiture télécommandée, un cerf-volant.
Un Action Man.
Action Man, ouais, j'espère que j'aurai tout. Ouais, des Lego aussi.
Celui qui a le parachute?
Ouais, parce que comme ça je peux le jeter depuis mon toit, c'est pas mal, quoi. Voilà, pour jouer avec le chat aussi. Voilà. Ouais, j'ai une grande liste. J'espère que Père Noël sera gentil avec moi. Ouais.
On verra bien. Si vous faites une bonne émission, il n'y a pas de raison finalement.
Écoutez, on verra. Ah, on verra.
Ça veut dire que Jean est copain avec le Père Noël.
Oui, j'ai des contacts.
Tiens, Caro, alors.
J'ai des contacts. Timothée Rouvière, des idées, vous, pour Noël?
Ou des idées.
C'est trop tôt. Vous faites les cadeaux, vous avez déjà acheté les cadeaux, vous?
Non, moi je ne fais de cadeaux à personne, j'ai pas de salaire comme Lucas, donc voilà.
On sent l'étudiant.
Tu sais, j'étais dans ta situation il y a 4 ans. Voilà.
C'est ça.
Mais bon, j'offrais quand même des cadeaux, moi je suis pas un. Enfin voilà.
Ouais, bon, on peut trouver des porte-clés.
Oui, à 2 euros, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Moi je coloriais des trucs.
Il y a des trucs sympas. On n'aura pas le maillot 2 étoiles.
Ah, non, contrairement à
vous, moi,
c'est ça.
Il a voulu le placer. Hein.
En fait, moi, il veut nous mettre les nerfs.
Il fallait le placer. Oui, je l'ai. Je suis chanceux. Je l'ai. J'ai eu chaud parce qu'en fait, le magasin.
Tu t'es délesté de 100 euros.
Voilà, exactement.
100 euros, le maillot.
Ouais. À peu près, avec le flocage de Kylian Mbappé, évidemment. Avec le fameux badge FIFA champion 2018. Il fallait tout mettre, bien évidemment.
Il y a tout là.
Et j'ai eu chaud parce que le magasin ouvre à 10h. Je suis arrivé vers 10h30. J'ai pris le dernier déjà.
Oh là là. C'est le dernier à ta taille ou le dernier?
Il y avait un maillot bleu en S, bien évidemment. Vous imaginez bien, cher auditeur, que je ne rentre pas dedans. Il restait le maillot dont je tairais la taille. Par principe. Après, il restait pas mal de maillots blancs et maillot d'entraînement, mais bien évidemment, c'est le bleu.
Depuis le temps qu'on l'attend, celui-là.
Donc j'ai eu chaud.
Bravo.
J'espère que vous êtes prêts, messieurs, pour cette nouvelle émission. Pour la dernière de l'année 2018, on démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué. Et cette semaine, deux coups de cœur, un coup de gueule. On va commencer avec le coup de gueule. Comme ça, c'est fait. On passe avec vous, Maxime Brossard.
Oui.
Coup de gueule sur les plaquages. Dans le rugby, bien évidemment.
Les plaquages, on va dire plus tristement, les morts. C'est le troisième mort en 7 mois de compétition. C'est Nicolas Chauvin qui est malheureusement décédé, un jeune espoir du Stade français qui avait 19 ans. Il est mort des suites d'un plaquage qui a eu lieu lors d'un match de championnat contre les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, après le décès de Louis Farchowski à Aurillac durant l'été, et puis il y a eu aussi un jeune qui est mort en amateur qui s'appelait Adrien Disculu qui est mort à l'âge de 17 ans suite d'une commotion, il est mort dans son sommeil. Voilà, donc il va falloir réagir pour le rugby parce qu'en plus de l'équipe de France qui va mal, ça donne vraiment pas envie aux parents, je pense, d'inscrire les enfants au rugby, surtout quand on voit la dangerosité du sport. Donc, là, jeudi, il va y avoir une réunion d'urgence entre Brett Gosper, Bill Beaumont, qui sont les, on va dire, les deux patrons de World Rugby, et Bernard Laporte et Serge Chimon, qui sont les patrons de la FFR, pour tenter de trouver des mesures. Ils ont passé à l'étude, ils ont notamment, avec des scientifiques, visionné plus de 6000 vidéos de plaquage pour essayer de trouver les bonnes mesures, les bons comportements, les bonnes attitudes à adapter. On va avoir notamment quelques mesures qui devraient sortir ce jeudi-là. Voilà.
C'est uniquement en France ou est-ce que malheureusement il y a des décès dans les autres pays?
Les 7 derniers mois, finalement, ça a été surtout en France. Après, il y a eu un décès d'une joueuse italienne, une jeune joueuse italienne qui avait 20 ans. Voilà, donc ça touche l'Europe principalement pour l'instant.
On avait eu un débat avec notre invité Grégory Lambollet, qui a été international français, qui a joué au Stade Toulousain. Lui, il s'occupe des jeunes maintenant, des enfants, même on peut dire, du Stade Toulousain, où il expliquait que à un certain âge, il n'y a pas de plaquage, il y a un toucher.
C'est une nouvelle règle qu'a introduit la FFR au début de saison, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants ne plaquent plus jusqu'à
15 ans,
jusqu'à 12 ans, il me semble. Ouais. Donc le plaquage est interdit. Il y a même en fait, c'est une notion de passage en force comme on peut avoir dans certains sports. Donc ça joue à toucher. C'est pour favoriser le jeu d'évitement et le déplacement du ballon. Alors après, j'avais notamment relevé dans un très bon article de Midi Olympique quelques, on va dire, solutions qui pouvaient être apportées. Ils ont fait un condensé un peu de tous les échos qu'ils avaient eus. Donc apparemment, donc déjà la première des mesures qui pourraient sortir jeudi après la réunion, ce serait donc abaisser la ligne réglementaire de plaquage qui est à hauteur des épaules pour l'instant, juste
mettre à la taille, c'est mieux.
À la taille, probablement. Enfin, la sangle abdominale, probablement. Ensuite, il va y avoir peut-être des catégories de poids chez les jeunes, un arbitrage qui va être encore plus sévère, peut-être. Donc, ça reste à voir.
Comment on peut donner un arbitrage beaucoup plus sévère?
C'est-à-dire que là, si
les joueurs le font exprès de plaquer plus haut,
puisque ça fait partie des consignes. En fait, le plaquage, on va dire, de ce type haut qui est sur le haut du corps est apparu assez récemment. C'est un plaquage qu'on appelle share tackle. C'est un plaquage qui a pour but de bloquer le ballon, en fait. C'est pour ça que le offload s'est développé. Le offload, c'est la passe après contact. C'est une passe qui oblige le joueur à passer les bras par-dessus le défenseur pour pouvoir faire la passe, en fait. Et donc, en fait, c'est ce type de plaquage qui risque d'être interdit.
Un arbitrage plus sévère, ça peut dire aussi des sanctions plus dures, peut-être.
Plus lourdes, oui. Et donc, je finis avec réformer la formation pour les plus jeunes. Ça, c'est avec la promotion du jeu de passe. Et bien sûr, catégoriser les postes par poids, c'est-à-dire une limite de poids par poste.
Voilà. Donc, c'était le seul coup de gueule, le coup de tristesse, même, j'ai envie de dire, finalement.
Coup de larmes de
la soirée. On va se redonner le sourire avec vous, Lucas Cerdic. On va parler de l'équipe de France. On va parler du double podium français en géant. On parle de sport hivernal.
Ouais, on parle de ski alpin même. Voilà, c'est Noël, c'est l'hiver. Hein. Le retour de la neige et le retour des compétitions de ski alpin, de biathlon, de tout ce que j'aime, moi, personnellement. Bon, ça fait déjà quelques semaines que ça a repris, mais les Français avaient un début de saison un tout petit peu, on va dire, compliqué. Et notamment l'équipe de France masculine qui nous a habitués à d'excellents résultats et qui était encore à la recherche de leur premier podium. Et là, ça a été le cas en géant, alors en Italie, sur Alta Badia, qui est une piste un petit peu mythique. Et c'est Thomas Fanara et Alexis Pinturo qui ont réussi à se hisser sur la boîte, respectivement deuxième et troisième, derrière l'intouchable, mais vraiment intouchable, Marcel Vercher, qui a gagné avec plus de 2,5 secondes d'avance. C'est monumental.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Il y a eu autant d'accords entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le trentième, quasiment. C'est vraiment c'est monstrueux.
C'est titanesque.
Et il est très 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 en forme. Il est parti pour aligner encore les succès et les globes de cristal cette année. Mais derrière lui, c'était deux Français et ça c'est très bien. Pinturo tournait autour de la boîte. Il avait fait quatrième à Val d'Isère. En slalom, on tournait un petit peu autour aussi. On n'a pas encore eu, mais ça viendra peut-être. On a une équipe de France technique de ski alpin masculine qui est toujours aussi performante. Et ça c'est vraiment sympa. On peut continuer sur ce géant. Victor Mufajinde, il a fini, si je ne dis pas de bêtises, il a fini dans le top 10. Oui, il a fini 9e. Mathieu Fèvre a fini 13e. Et un petit nouveau, Thibaut Favreau, qui était dossard 47, c'est énorme, et qui a fini 18e. Donc c'est vraiment des bonnes performances. Tessa Worley, de son côté, avait montré la voie. Lors du premier géant, elle avait gagné. Voilà, tout ça pour dire, les Français ont lancé leur saison, qui sera, je l'espère, encore une fois, belle. Et voilà, vive la France.
Oui. On va parler encore de sport hivernal dans le sportif de l'année, ce sera pour vous. on le dévoile pas tout de suite, mais
mon chouchou.
Je pense qu'on a quelques idées avec les Jeux Olympiques qui se sont passés l'hiver dernier et la Coupe du Monde.
Il vise juste, c'est ça, c'est un indice.
Ah. Exactement, très fort. Et c'est pas de la pétanque.
Meilleur que Perforace.
Timothée Rouvière, le coup de gueule. Moi, je pense que le coup de gueule, il est unanime, hein, bien évidemment.
Non, coup de cœur.
Coup de cœur est unanime. On a vu, bien évidemment, que l'équipe de France de handball féminine est devenue championne d'Europe pour la première fois, pourtant après deux titres mondiaux.
Oui, tout à fait, genre une victoire 24-21 contre les Russes.
Championne olympique en titre.
Championne olympique en titre, et qui avait battu les Françaises 26-23 lors du match inaugural.
Oui, c'est vrai.
Devant 14 000 personnes, c'était un Paris-Bercy, c'était en folie. J'ai vu le match.
À partir du carton rouge.
Une ambiance folle. Le tournoi du match, comme vous le dites, Jean, c'était le carton rouge d'Alison Pinault, qui, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le match, a frôlé sans faire exprès la joue de la gardien
sur un pénalty
russe, ouais, sur un jet de 7 mètres.
Mais c'était très cruel. Hein.
Ça a été cruel. Alison Pinault en pleurs, donc on s'est dit là c'est bon, les Françaises vont lâcher, mais au contraire,
non.
Ça a fini de les souder. Ouais. On a eu un excellent mélange entre la jeunesse et l'expérience des petits jeunes comme Astrid Gouan, comme Orlane Canor qui ont montré la voie, et Stéphane Zenigo qui a été formidable.
La Crabère
aussi. En fin de match. Les quatre qui sont révélés.
Amandine Leno.
Camille Aiglon, Amandine Leno qui a été meilleure gardienne du tournoi, et c'est une formidable équipe de France. Ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir le handball féminin qui gagne, et depuis deux ans, et le retour d'Olivier Krebels, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, vice-championne olympique, championne du monde en janvier, championne d'Europe. Donc c'est beau.
Et pour la première fois depuis des années et des années, les filles font mieux que les hommes.
Oui.
C'est-à-dire que en handball, l'équipe de France masculine a fini médaillée de bronze à l'Euro 2018, c'était au mois de janvier.
Ils ont été vice-champions olympiques en 2016.
Champion du monde les deux en 2017. Et donc là, les femmes font entre guillemets enfin mieux que les hommes en prenant l'or.
Elles sont qualifiées, il me semble, pour les JO, c'est ça.
Oui, elles sont qualifiées avec ce titre.
Et donc en 2019, on aura les championnats du monde masculin et féminin. Donc on espère.
D'ailleurs, les championnats du monde masculin, où bien évidemment la France fait partie des favorites, donc le championne du monde en titre, ça commence dès le 10 janvier. Donc bien évidemment, on en parlera.
Ce sera où?
Ce sera en Danemark et en Allemagne.
Ah, voilà. C'est l'occasion encore de saluer le handball le handball français qui réussit brillamment avec Montpellier champion
même
d'Europe,
même chez les jeunes aussi, hein.
Là en Europe on est quand même les filles championnes d'Europe, les gars bon troisième, et les Montpellierains champions d'Europe.
On peut pas parler de sport national finalement en termes de médiatique, mais finalement c'est le sport
c'est
où le on sport, excelle
oui, voilà.
Le plus, j'ai l'impression.
Le sport collectif où on excelle
avec
plus,
la pétanque bien sûr
largement.
Avec la pétanque, on est plusieurs fois champion du monde, hein. je suis désolé
c'est vrai.
On va parler juste vite fait messieurs un mot de football, bien évidemment à midi a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Deux gros poissons pour les deux clubs français encore engagés. On va juste parler un petit mot de Ligue Europa pour signaler que le Stade Rennais, le seul club français en 16e de finale, affrontera un club espagnol qui est le Betis Séville. Tirage quand même assez difficile, surtout avec un retour en Espagne.
Un tirage sympa
de Ligue Europa. Pour la Ligue des Champions, il y a des gros matchs, l'Atlético contre la Juventus, Liverpool, Bayern Munich qui va être très costaud, Tottenham, Dortmund, et les deux clubs français, le Paris Saint-Germain qui va recevoir au match retour mais qui va devoir jouer contre Manchester United de Paul Pogba et Anthony Martial, et puis alors Lyon a tiré le gros lot, c'est le FC Barcelone de Lionel Messi.
Ouais,
comment on se sent après un tirage comme ça pour Lyon? C'est fantastique finalement.
Pour Lyon c'est fantastique, et je pense que le Barça aurait préféré tomber sur quelqu'un d'autre qu'une équipe aussi imprévisible que l'Olympique Lyonnais, capable du pire comme du meilleur, et surtout capable de se transcender face à les grosses équipes comme ils l'ont montré face à City.
On rappelle que Lyon a pris 4 points sur 6 en phase de poule contre Manchester City.
Leur seule victoire, c'était à City.
Exactement. Oui. Timothée Rouvière.
Bah oui, ça va être compliqué pour Lyon, mais comme disait Lucas, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et s'ils sont dans un grand soir, s'il y a un bel équilibre entre la défense et l'attaque, ça va être parfait.
Quand ils ont assumé un statut de favori, ils sont pas forcément bons, les Lyonnais.
Ils ne sont pas attendus. Donc voilà. Et après, pour Paris, on sait que c'est un gros tirage avec Manchester United, mais Manchester United est très loin de ces belles victoires d'antan, et on sait que c'est compliqué en ce moment, notamment en première ligue, donc tout est possible.
Vous venez de parler de gros tirage, mais est-ce qu'on peut parler de gros tirage pour le Paris Saint-Germain quand joue un Manchester United quand même, très pauvre. On parle d'une institution mondiale dans le football qui est Manchester United, avec un entraîneur dont la réputation n'est plus à faire qu'est Mourinho.
Voilà. Et tu as tout dit. Voilà. Tu as tout dit. C'est un stade, c'est un club historique, c'est un nom ronflant, c'est un budget colossal, une équipe qui va peut-être se renforcer cet hiver, on ne sait pas. Et c'est un coach qui a une expérience sans commune mesure en Europe quasiment, qui saura faire déjouer. Et Paris, on n'aime pas. À Paris, on n'aime pas être déjoué, quoi. S'il prend bien Neymar, Mbappé, franchement, tout sera possible. Donc on verra. Moi, je suis loin de partir grand vainqueur.
Ce sera au mois de février, le 12 février pour le premier match, ce sera Manchester United, Paris Saint-Germain et Lyon-Barcelone, ce sera juste la semaine d'après. On se retrouve messieurs nous dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio, à tout de suite.
Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle, elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, tu le fais, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé, il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
C'était Big Flo et Oli sur Radio Présence.
Portez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé sur Radio Présence avec vous Didier Rubio. Cette semaine, on va parler du lactose.
Bonsoir Jean. Ah oui, vaste sujet, hein. Comme c'est... le gluten la voilà. Semaine dernière, on pourrait en parler des heures. Mais
qu'est-ce que le lactose ?
Alors simplement, le lactose, c'est le sucre du lait, le sucre naturel.
Tout simplement.
C'est un disaccharide, hein. C'est-à-dire deux sucres accrochés, et c'est contenu dans le lait. Alors pourquoi c'est très débattu ? Parce que l'idée c'est de se demander, est-ce que j'ai encore besoin du lactose quand je suis adulte ? Est-ce que j'en ai besoin quand je suis enfant ? Voilà. Et globalement, comme lactose ça a la même étymologie que le lait, lactose, il y a cette confusion entre le lait, le lactose et tout ça.
C'est voilà. Tout différent ?
Ben, dans le lait, c'est là où il y a le plus de lactose. Voilà. Après, dans les produits dérivés, le yaourt,
le fromage,
fromage blanc, yaourt, petit suisse, pardon, et puis tous les entremets et le fromage, il y aura beaucoup moins de lactose, et dans le fromage encore moins, voire même quasiment pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la population, il y a une enzyme qui s'appelle la lactase. La lactase, ça permet de digérer le lactose. Et ça, c'est quand on est enfant, on a ça forcément. Et après, ça s'amenuise. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui n'auront plus de lactase. Ça veut dire que quand ils boivent du lait, ils ne vont pas le supporter. Bon, ben, il faut arrêter de boire du lait, tout simplement, et passer à autre chose. Il y en aura moins et ça passera très bien.
On parlait la semaine dernière avec le gluten de l'intolérance au gluten. Est-ce que c'est la même chose, l'intolérance au lactose ?
Oui, mais c'est pas tout à fait comme la semaine dernière et le gluten. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... Alors, il peut y avoir une intolérance au lactose, une vraie. Donc, on peut dépister ça dans un service de gastro-entérologie, c'est des tests pulmonaires à l'hydrogène, donc on ingère beaucoup de lactose, et puis on va expirer de l'hydrogène. Si c'est positif, ça veut dire qu'on tolère pas très bien le lactose. Si vraiment, vraiment, la personne est très, très, très dérangée, elle pourrait faire ça. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est par exemple, pendant 6 à 8 semaines, enlever le lactose.
Et voir si ça va mieux.
Et voir si ça va mieux. Si vraiment, il y a moins de diarrhée, il y a moins de ballonnement, de douleurs abdominales, bon, ça veut dire que le lactose peut être incriminé quand même.
Quels sont les risques de trop en prendre du lactose pour un sportif ou tout simplement pour une personne lambda ?
Ouais, et bien c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a trop de lactose et qu'on n'a pas la lactase, on ne va pas le digérer. Donc c'est ça, c'est des ballonnements, c'est vraiment beaucoup de gaz, c'est des douleurs. C'est aussi le risque de diarrhée parce que ça accélère le transit intestinal. C'est, chez un sportif, ça peut être, on ne peut pas faire ça, quoi. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que dans la population enfant, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est le lactose. Et le problème des produits laitiers, puisqu'on finalement on parle de ça, il n'y en a pas du lactose dans la viande ou dans le pain. Oui. Donc il faut faire attention dans l'âge donc, de croissance, de privilégier quand même la fabrication du squelette. Et là, par contre, il faut du calcium. Donc on a,
pendant la croissance,
voilà, on a intérêt à pas forcément se poser énormément de questions là-dessus en disant le lactose, je l'enlève parce que on n'en a pas besoin ou on ne va pas très bien le digérer. S'il n'y a pas d'intolérance au lactose, il faut que les enfants, je pense, consomment une quantité de calcium suffisante. Après, l'âge adulte, c'est une autre histoire et c'est l'histoire des grands. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent plus consommer de produits laitiers parce que ça ne leur va pas, ok. Mais... voilà, bien
jusqu'à la croissance,
voilà,
il en faut.
Voilà, voilà, c'est exactement ça.
Didier Rubio, merci.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda sportif avec vous, Lucas Serdic. L'agenda de la semaine, on va commencer comme d'habitude avec du rugby.
Avec du rugby, et j'ai envie de dire une affiche de gala qui nous attend dimanche soir à 21h. C'est rare en top 14 d'avoir une affiche le dimanche soir à 21h, mais là ça mérite. Clermont, Stade Toulousain.
Sur Canal Plus.
Sur Canal Plus. Là, j'ai envie de dire le premier contre le deuxième. On est sur l'affiche rêvée de ce début de saison avec deux équipes contre quasiment Clermont, intouchables qui marchent sur l'eau depuis le début de la saison. Ce sera à 21h. C'est dans le cadre de la 12e journée du top 14. C'est avant les gros matchs des Boxing Day qu'on aime bien. Il y a une autre affiche qui sera très intéressante à suivre ce dimanche-là. Ce sera à 16h50, un peu plus tôt. Castres qui reçoit Bordeaux-Bègles, oui. Le 7e contre le 6e. Ils sont coude à coude en championnat. Castres qui a battu le Munster ce week-end, qui a pris sa revanche de la semaine passée et qui s'est relancé en Coupe d'Europe. Voilà, on ne parle même pas de Toulouse en Coupe d'Europe, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais qui s'est imposé 42-27 face au WASP et qui a 4 matchs, 4 victoires. Bravo aux Toulousains. Donc voilà, nos deux clubs régionaux en top 14 qui vont jouer dimanche. La veille, il y aura deux matchs intéressants à suivre aussi. Agen qui reçoit le Stade Français. Agen qui s'est imposé en Challenge Cup face à Grenoble 14-10 dans un groupe où les quatre équipes sont concentrées en deux points. C'est vraiment rare à ce stade-là. Et ce match-là, ce sera à 14h30 et un peu plus tard le samedi. Pau recevra La Rochelle. Ce sera difficile pour Pau qui
marche. Belles affiches.
Ouais, il y a des belles affiches. Pau qui marche moyen en championnat, qui est 11e et qui a perdu face à Worcester en Challenge Cup cette semaine, la semaine dernière, 23-7. Ouais. Attention.
D'ailleurs, Coraline, notre réalisatrice, est en train de pleurer.
Mais je comprends. Et
c'est compliqué pour Coraline.
Accueillir La Rochelle.
Ça va, Coraline ? Tout va bien ? Est-ce que tout va bien ?
On pleure pas trop, ça va.
J'avoue que c'est compliqué en ce moment. On va se ressaisir. 2019 sera une nouvelle année.
Il ne fait pas bon. Ouais, mais tu sais qu'il y a encore des matchs avant la fin de. Il faut se concentrer. Là,
passons parce que, à 2019 et vite.
La Rochelle 3e qui vient à Pau, ça ne va pas être un match évident. Voilà, donc pour la 12e journée de top 14. En Pro D2, on va jouer la 16e journée avec Carcassonne qui va accueillir Aurillac vendredi à 20h. Carcassonne qui a perdu à Mont-de-Marsan 30 à 14 le week-end dernier. C'est un peu la chute là pour Carcassonne qui est 10e. Mais bon, face à Aurillac, il y aura peut-être moyen. Vendredi, toujours à 20h, Montauban va accueillir Béziers. Montauban qui a explosé littéralement à Oyonnax le week-end dernier, qui est 11e. Ils ont perdu 51-14. Et pour Colomiers, ça va vraiment, voilà, ça va pas mieux. À 20h30 vendredi, ils vont recevoir Brive qui est 4e, Colomiers est 15e et ils ont perdu chez le dernier à Massy le week-end dernier, 22-13. L'électrochoc n'a pas eu lieu avec le changement d'entraîneur. On s'inquiète vraiment pour Colomiers, on va voir face à Brive. On ne sait jamais, 2019 sera peut-être là aussi une meilleure année. On passe au football parce qu'on a quand même deux affiches qui vont concerner le TFC et notamment dès demain soir. C'est le match reporté qui devait jouer samedi entre Caen et le TFC. C'était notre pronostic. On va arrêter de pronostiquer sur le football.
On prendra Caen pour la semaine prochaine. Noël.
Ça suffit. Arrêtons les pronostics sur le foot. Vous voyez bien que c'est pas le moment. Non. Il faut passer à autre chose. Sinon, on va avoir trois résultats à la rentrée. Ça va être compliqué. Donc, Caen 18e qui va accueillir le TFC, c'est demain à 19h30 et ce sera visible sur BeIN2. BeIN2 qui va être la chaîne du TFC cette semaine, puisque samedi 21h, on joue la 19e journée. Lille TFC, donc belle affiche, et ce sera un multiplex. Un multiplex sur BeIN1, mais sur BeIN2, on pourra voir le match du TFC en entier à 21h.
Et calendrier compliqué pour Lille. Ils vont jouer le TFC et ils commencent janvier 2019 par le FC Sochaux. Donc c'est très compliqué.
Il va falloir faire tourner.
Franchement, je peux dire que là, c'est champagne pendant les fêtes pour Lille.
Ils vont peut-être revenir complètement défait.
On verra. En tout cas, samedi soir, fin des matchs allés. Sauf si il y a une Indy qui se fait son chemin parmi les présidents de Ligue 1, sauf si on fait un boxing day pour les matchs qui ont été reportés à cause des gilets jaunes.
Il y a eu
en tout cas une idée qui a été soumise.
Que la plupart des matchs sur les deux journées, il y a à peu près une journée entière sur les deux qui a été reportée, donc soit 10 matchs, il y a la plupart qui a été reporté le 15 et le 16 janvier.
Voilà, mais ça c'est pour la 16e journée de Ligue 1.
Sauf pour la 17e.
Voilà, mais pour la 17e journée de Ligue 1, il y a encore quelques matchs intéressants et notamment Dijon-PSG. Peut-être que ce sera pendant les fêtes, on verra. Un mot de handball pour dire encore une fois que Toulouse s'est bien relancé. Ils ont gagné à Nice en Coupe de France et sont qualifiés, donc si je dis pas de bêtises, pour les huitièmes de finale. Par contre, ils ont perdu en Coupe de la Ligue face à Montpellier.
En quart de finale.
Mais on pouvait un petit peu s'en douter. Ils vont accueillir Pontault-Caubon mercredi à 20h30. C'est le 11e contre le 13e. Donc, dans le cadre de la 13e journée de D1, c'est absolument un match à gagner. Et il faut absolument que je parle de volet parce que les Spacers marchent très bien. Ils ont gagné face à Nantes 3-7 à 0. Ils sont 7e et là, ils vont se déplacer à Poitiers. Ce sera samedi à 19h30. Poitiers qui est 3e. Donc, les Spacers 7e. Un bilan à l'équilibre après un mauvais début de saison pour les Spacers. 5 victoires, 5 défaites. Allez, les Spacers.
Les Spacers deux saisons très compliquées, qui ont été vice-champions de France il y a 2 ans, défaite contre Nice. Et l'année dernière,
ils ont fait qu'une saison compliquée, je crois. Ils ont fait qu'une saison compliquée. C'était l'année dernière, effectivement, parce qu'ils sont vice-champions de France en 2017. Ils font une saison très compliqué l'année dernière, c'était très mal parti là cette année.
Ça va mieux, même si
ils n'avaient aucun risque de descendre parce que 13 équipes, on l'a déjà dit, mais ça va mieux. Ils sont à 5 victoires, 5 défaites et ils sont 7e sur 13.
Merci Lucas Serdic, on passe au sportif de l'année, au débat pour cette fin d'année.
Sportez-vous bien. Le débat.
Alors, c'est pas vraiment un débat, messieurs, vous l'avez compris. Pour cette fin d'année 2018, j'ai demandé à vous, messieurs les chroniqueurs, de me trouver un sportif de l'année 2018. Il y a deux Français, il y a des Irlandais. On va démarrer avec la France, avec vous, Lucas Serdic.
Ah, c'est moi ?
Gardez la main.
Je garde la main.
Gardez la main, on va commencer avec, bien évidemment, Martin Fourcade.
Mon chouchou.
Le chouchou. Il est né quelques jours avant moi, vous savez.
Ah, disons.
À quelques jours, c'était vous qui étiez champion olympique et champion du monde.
Non, mais j'ai fait beaucoup mieux que lui. Mais, mais ça n'empêche que lui, il a fait quand même une carrière qui n'est pas finie, heureusement. Remarquable. Bon, voilà. Pour parler de lui.
Son année 2018.
Son année 2018. Bon, le début de l'année 2018 était dans le prolongement de sa fin d'année 2017, puisque, bon, là, lui, sa saison, elle se concentre sur l'hiver, donc fin 2017, début 2018. Une saison en Coupe du Monde en tout point exceptionnelle, parce qu'il avait un adversaire exceptionnel aussi, le duel sans doute le plus épique pour moi de l'histoire récente du biathlon, avec deux athlètes qui ont fini largement au-dessus des 1000 points en biathlon. Une saison de Jeux Olympiques, c'est très rare, puisqu'il y a 4 courses en moins. Une stat pour moi qui résume tout, il y avait 22 courses en individuel en Coupe du Monde à courir, il en a couru 21, il en a fini 20 sur le podium.
Ce qui est fantastique.
La seule qu'il n'a pas terminée sur le podium qu'il a couru, c'est la dernière, alors qu'il était pour la première fois assuré d'être champion, de remporter la Coupe du Monde. C'est dire à quel point Johannes Bö lui a quand même tenu la dragée très très haute, parce que quand on fait que des podiums, 20 podiums d'affilée, et qu'on n'est toujours pas sûr d'être vainqueur de la Coupe du Monde, c'est incroyable, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur son palmarès ? Il a gagné 7 médailles olympiques, 5 en or, 2 en argent. Après, il y a quelque chose qui est quand même assez bizarre, entre guillemets, c'est qu'il a gagné 7 Coupes du Monde, donc entre 2012 et 2018, mais il est 11 fois champion du monde. Quelle est la différence pour les auditeurs entre gagner une Coupe du Monde et être champion du monde ?
Les champions du monde, en fait, c'est une épreuve qui se déroule sous le même format que les Jeux Olympiques. C'est concentré, on concentre les 4 épreuves, 8, les 11 épreuves du biathlon, c'est-à-dire les 3 relais mixtes et féminins masculins et les 4 épreuves individuelles masculines et féminines, sur deux semaines, si je dis pas de bêtises, et on distribue les médailles, on distribue les titres de champion du monde, alors que la Coupe du Monde, c'est un marathon, c'est une saison entière, c'est en général, voilà, soit 22, soit 26.
C'est un contrôle continu, entre guillemets.
Un contrôle continu, exactement, avec un classement final et tout. Et tout
avec des étapes.
Avec des étapes, tout à fait. Et Martin Fourcade a prouvé, depuis qu'il a explosé en 2012, mais bon, on avait déjà, en 2010, il avait déjà eu une médaille aux Jeux Olympiques, hein, une médaille d'argent en Mastart, il faut s'en souvenir, alors qu'il était très jeune. Martin Fourcade a prouvé tout au long de ces longues années de très haut niveau qu'il est à la fois un marathonien et à la fois un mec qui est capable de briller sur des courses d'un jour. Et il faut parler absolument, parce qu'on peut pas parler de sa saison 2018, on peut pas la résumer à la Coupe du Monde. Il y a eu les Jeux Olympiques, donc c'était une grosse année.
Jean-Claude Killy,
une grosse année pour lui. En plus, parce qu'il y avait des Jeux Olympiques. Encore une fois, juste une stat, 26 courses individuelles en comptant les Jeux Olympiques, il en a terminé 23 sur le podium.
Ce qui est incroyable.
23 sur le podium. En Jeux Olympiques, il arrive, il n'avait fait que des podiums, il se loupe sur le sprint, bon, il réagit magnifiquement, il se loupe sur les couchers, il est à un moment dans la course, il est 25e. Il se ressaisit, il finit 8e, parce que c'est très important de bien finir un sprint, puisqu'après il y a la poursuite. Et la poursuite, c'est de loin...
C'est en fonction du classement précédent.
Tout à fait. Et la poursuite, c'est de loin sa course préférée. Parce que quand il a remonté, il est jamais autant irrésistible que quand il a remonté. C'est d'ailleurs l'épreuve qu'il a gagnée ce week-end, hein, la poursuite. Martin Fourcade, il adore ça, et il adore en fait ne pas se battre contre le chrono, mais se battre contre les adversaires. C'est pour ça qu'il est excellent aussi sur les mass starts. Donc il commence mal, il loupe son sprint, il remporte la poursuite brillamment, il loupe derrière l'individuel parce que voilà, encore une fois, face au chrono, il n'était pas bien. Il gagne la mass start, il fait gagner le relais mixte derrière, 3 médailles d'or, meilleur athlète le plus titré de l'histoire des Olympiades niveau français, tout sport confondu, été comme hiver.
Fantastique,
c'est vraiment un maigre mot pour qualifier tout ça.
Autre chose de fantastique, c'est pour vous, Maxime Brossard, c'est les Irlandais. Alors vous, c'est pas un sportif, c'est vraiment une institution, c'est un pays, c'est l'Irlande du rugby, que ce soit sur la sélection ou que ce soit en club.
Ouais, j'ai choisi l'Irlande parce qu'ils ont fait une année incroyable. Déjà, ils ont commencé en gagnant le Six Nations, en faisant un grand chelem. Ils ont gagné aussi la Coupe d'Europe avec le Leinster. Il y a aussi le Munster qui était en demi-finale. Le Leinster qui a fait un doublé, puisqu'ils ont gagné aussi le Pro 14, qui est le championnat des provinces celtes. Ils ont enchaîné avec des test matchs. Ils ont eu une seule défaite dans ces test matchs de juin. Ils ont perdu contre l'Australie. C'était le premier test match. Ils ont perdu 18-9. Et puis ensuite, ils ont déroulé jusqu'à ce chef-d'œuvre qui a été ce match contre les All Blacks qu'ils ont gagné chez eux à la Viva. Voilà, c'est super. Le rugby irlandais, en plus, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on a vraiment une perspective d'avenir avec ce rugby, puisque là, on a des cadres comme Jonathan Sexton, qui a été élu meilleur joueur du monde. On a aussi Conor Murray, CJ Stander, mais on a des joueurs qui vont arriver. On a Dan Levy en troisième ligne, je pense aussi à Joey Carberry, le jeune ouvreur. On a aussi de Ringrose. Enfin, je peux vous en donner une liste incroyable.
Ce qui est fort avec ces Irlandais, c'est qu'il y avait une grosse génération qui s'est arrêtée et qu'ils ont su rebondir, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait été compliqué. Brian O'Driscoll, Ronan O'Gara, quand ces gens-là sont partis.
Bien sûr, Pete Stringer.
Pete Stringer, et puis quelques trois quarts aussi qui étaient fantastiques, dont je me souviens plus les noms. Mais ça aurait pu mal se terminer.
Je pense que
mal s'enchaîner.
C'est ça. Et puis surtout, ce qui est beau, je trouve, dans le rugby irlandais, c'est que c'est un rugby qui, il faut le savoir, unit deux pays. Il unit l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et en des temps compliqués avec le Brexit, justement, c'est une équipe qui fait du bien à tout un pays et qui fait du bien à tout un sport aussi, parce que quand on est enfant, je pense que bon, forcément on s'identifie All Black, mais moi j'encourage aussi les jeunes auditeurs à regarder des matchs de l'Irlande, à regarder la ferveur, à regarder aussi ces joueurs qui sont incroyables. Et puis bon, on va voir,
il y aura toujours attractif en plus, hein.
Oui, toujours des beaux matchs, il n'y a jamais de matchs vraiment fermés, enfin c'est pas dans leur ADN et c'est pas dans l'esprit du rugby irlandais.
En 30 secondes, l'Irlande clairement favorite avec les All Blacks pour la Coupe du Monde ou pas?
On verra, puisque de toute façon ils vont se rencontrer très vite. L'Irlande aura dans sa poule l'Écosse, le Japon, la Russie, les Samoa, et en fait ils sont dans la poule A, et la Nouvelle-Zélande, on va dire, et l'Afrique du Sud, qui sont aussi deux favoris pour la prochaine Coupe du Monde, sont dans la poule B.
Donc quoi qu'il arrive, ils prennent soit l'Afrique du Sud, soit la Nouvelle-Zélande, voilà, s'ils se qualifient.
En quart de finale, voilà.
S'ils les jouent pas en quart de finale, ils les joueront.
Ils les joueront peut-être en finale derrière. Ouais. Donc après, soit ça arrivera très vite, soit ça arrivera sur la fin. Après, le problème c'est qu'on peut pas prédire. En 2015, ils étaient aussi assez performants. Moi, je les voyais dans les favoris, et puis finalement, ils sont.
Le problème de l'Irlande, c'est qu'ils n'ont aucune référence en Coupe du Monde. Ils n'ont jamais gagné. Je ne crois pas qu'ils aient fait de finale non plus.
Bizarrement, les meilleures nations celtes en Coupe du Monde, c'est le Pays de Galles qui a fait une demi-finale et l'Écosse après qui a fait quelques quarts à un niveau correct.
Ouais. Et un sportif, lui, qui a l'habitude des championnats du monde, des Coupes du Monde, c'est votre sportif de l'année, Timothée Rouvière, c'est Kevin Mayer, 26 ans, qui a été, on peut le dire, en 2018, champion du monde en salle en heptathlon à Birmingham. Et bien évidemment, le record du monde de décathlon est plus de 9000 points, ce qui est absolument gigantesque.
Ah. Alors oui, il a fait une année 2018 assez formidable, Kevin Mayer. Donc, comme vous l'avez dit, Jean, record du monde du décathlon à Talence, dans la région de Bordeaux, avec 9126 points. C'est le troisième homme à dépasser les 9000 points après Ashton Eaton, qui avait été champion du monde et qui a dominé pendant assez longtemps le biathlon mondial, et le tchèque Roman Sebrele.
Cheberley,
merci pour la prononciation, Lucas. Je ne parle pas couramment le tchèque.
Non, mais je comprends.
Et donc voilà.
Il parle toutes les langues, Lucas.
Non, mais c'est les Balkans, je connais.
Ouais. Donc palmarès assez formidable pour Kevin Mayer, qui dans sa carrière a été champion du monde en salle, vice-champion d'Europe, vice-champion olympique en 2016 derrière Ashton Eaton, et vice-champion d'Europe. Il me plaît bien, Kevin Mayer. Il est jeune, il est beau, il est plein d'avenir. Surtout, il a très peu de concurrence au niveau national et peu de concurrence au niveau international et mondial, peut-être à part le Canadien Warner. Mais ça fait plaisir surtout de voir un sport qui est peu médiatisé comme ça. C'est le plus grand décathlonien français de tous les temps.
Oui. C'était quand la dernière fois qu'un Français. Il y a eu Renaud Lavinet, je suis bête. Mais c'est rare que les Français battent des records du monde en athlétisme. Franchement.
J'ai une question, messieurs, ça va faire un peu débat, justement. Martin Fourcade, pour le sportif de l'année de Lucas Cerdic, a tout gagné, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, les Championnats du Monde, etc. etc. L'Irlande, pour Maxime Brossard, ils ont fait le Grand Chelem, ils ont battu les All Blacks, le Leicester a été champion d'Europe pour les clubs. Vous, il y a Kevin Mayer, qui est champion du monde en salle, fantastique, respect, qui a le record du monde, fantastique, respect également, mais qui par contre a un énorme échec au championnat d'Europe, où il est éliminé dès la deuxième épreuve.
Ouais,
est-ce qu'on peut dire
je pense que oui, parce que oui, il a été éliminé à Berlin après trois échecs au saut en longueur, voilà, à zéro pointé, il a abandonné parce qu'il savait qu'il pouvait pas accrocher le titre. Mais c'est surtout le rebond de ce garçon. Il pensait pas participer au Décastar de Talence, et il a décidé de se remobiliser, de retravailler, etc. Il a été chercher ce record du monde avec les tripes, et personne pensait qu'il allait pouvoir être battu, surtout par un petit français. Il a battu tous ses records personnels dans les épreuves. Donc c'est magnifique. Puis, c'est le rebond de ce garçon surtout.
Et puis c'est pas un énorme échec dans la mesure où lui il s'en foutait un petit peu de le gagner. Il était clairement parti dans une course au record du monde, le championnat d'Europe d'ailleurs. Pas grand monde ne s'y intéressait objectivement parlant. Kevin Mayer, c'est les championnats du monde, c'est les Jeux Olympiques et c'était le record du monde. C'était son seul objectif clairement affiché de la saison. À partir du moment où il a décidé de prendre tous les risques, s'il avait voulu remporter la compète, le troisième essai à la longueur, il l'assure. Ouais. On en parle. Oui. Mais il savait très bien qu'en assurant, il allait peut-être pas avoir le record du monde et ça ne l'intéressait pas. Donc à partir de là, on peut pas parler d'un échec. Il a voulu, il s'est éliminé quelque part.
Et finalement, est-ce que c'est un mal pour un bien? Est-ce que grâce à cet échec, si on peut parler comme ça, il aurait eu
non, mais il l'aurait battu de toute façon parce qu'il est il progresse partout, il gomme ses points faibles, les rares points faibles qui lui restent. C'est un sportif qui va, on peut le prédire à mon avis, sans trop de crainte, rebattre son record du monde. Ça me paraît assez évident.
Kevin Mayer qui va essayer de garder son titre de champion du monde, il va essayer aussi d'être champion olympique, pourquoi pas.
Oui, voilà, c'est le prochain gros objectif de sa carrière.
Bien sûr. Merci messieurs, on se retrouve tout de suite avec l'invité de la semaine.
Sportez-vous bien, l'invité.
Notre invité fait le même métier que Didier Deschamps ou Joachim Löw. Il est sélectionneur national des Comores. Amir Abdou peut faire rentrer son équipe dans l'histoire du pays en se qualifiant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Chose possible, mais compliquée. Amir, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes sélectionneur, donc pour les auditeurs, quelle est la différence entre un sélectionneur et un entraîneur de club?
Avant tout, c'est le métier le plus exposé en Afrique, même je pense aussi dans le monde. Hein. Il faut savoir qu'en Afrique, ben il y a le chef d'État et après il y a le sélectionneur. Et après ensuite, vous représentez un pays et les choix sont scrutés, hein, faut savoir par la population aussi par les médias. Et forcément, ben il y a beaucoup de d'attentes au niveau de ce métier-là et une pression qui est énorme parce qu'on est à l'abri de rien pour en termes de résultats, quoi.
C'est beaucoup plus difficile finalement donc d'être sélectionneur.
Ouais. Après bon, le métier d'entraîneur c'est complètement différent parce que quand on est entraîneur dans un club, ben les joueurs on les a au quotidien. Il y a aussi un travail qui est fait avec les joueurs dans le club. Et ensuite, concernant sélectionneur, ben vous récupérez des joueurs pour une période de 5 jours avant un match, pardon, et c'est beaucoup plus compliqué parce que les joueurs, il faut les mentaliser, il faut les préparer au match et que le message doit passer plus rapidement que dans un club, quoi.
Lucas Erdic.
Non, je disais que ce sont deux rôles différents et après. Ça suscite beaucoup de l'engouement, la population qui est derrière vous et c'est tout un pays vous êtes responsable de tout un pays, quoi.
Lucas Serdic.
Oui, comment on devient sélectionneur des Comores alors que bon, vous, les auditeurs ne le savent pas, mais vous vivez dans le Lot-et-Garonne, c'est toujours le cas?
Oui, oui. Je vis toujours sur Bonencontre, à côté d'Agen. Là,
ah oui. Comment on devient sélectionneur d'une sélection comme les Comores alors que voilà, on habite en France. Comment ça s'est passé?
Ben en fait, en 2014-2015, il y a eu un appel à candidature pour prendre la sélection. Il y avait plusieurs candidats. Je pense qu'il devait y avoir une vingtaine de candidats et le team manager qui à l'époque m'avait appelé pour savoir si j'étais intéressé à prendre le poste et je lui dis oui pourquoi pas, mais il y avait trop de paramètres qui faisaient que je trouvais que c'était compliqué et j'avais la crainte de travailler en Afrique et Dieu sait que c'est très très difficile. Ça m'a beaucoup apporté en termes d'expérience et au final, ben, il y a eu 3 ou 4 entretiens. Donc, ma candidature a été prise et donc je suis devenu sélectionneur. Après, bon, l'avantage aussi que j'ai, c'est que je suis d'origine comorienne et forcément, ben,
ça aide.
Ça a aidé, mais bon, après, nul n'est prophète dans son pays, quoi. Donc,
Maxime Brossard.
Vous avez dit c'est dur de travailler en Afrique. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui vous faisait peur de travailler avec une sélection africaine?
Ben, notamment, c'est comme je l'ai dit, là, avoir une responsabilité d'une équipe et savoir que quand vous avez, c'est pas les supporters, vous avez la pression des supporters, la pression des médias et puis après la pression du peuple et gérer tout ça, ça a été compliqué parce que après
une responsabilité quasiment gouvernementale, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Puis après, ça fait aussi une affaire d'État. Hein, ouais. Aussi, donc tout se mélange dedans et c'est politisé, quoi. Donc après, comme je l'ai dit, moi, j'ai quand même un parcours atypique parce que je viens du milieu amateur et.
Oui. Mais c'est ça. Vous étiez entraîneur d'une équipe amateur avant.
Oui, voilà. Ouais, j'étais d'une équipe amateur, notamment dans j'ai travaillé sur l'agglomération genèse. Et après, je suis parti entraîner dans le Tarn-et-Garonne. C'était à Golfech, Saint-Paul.
Ah oui, Golfech.
Qui était en division d'honneur. Voilà. Après, la difficulté, elle est que forcément, quand vous posez des questions et forcément, quelqu'un qui arrive du milieu amateur, il faut
faire ses preuves plus, quoi.
Faut faire ses preuves. Faut travailler deux fois plus. Et la crainte, elle était là. Mais bon, après, quand on commence à connaître bien le métier, on est performant, quoi.
Quelle est l'organisation par rapport à tout ça? Il y a une distance, bien évidemment. Vous faites le voyage Agen et Comores très régulièrement. Comment on gère les hommes? Comment on gère les moyens? Je pense que tout le monde se doute bien que les moyens des Comores est quand même assez bas par rapport à des budgets comme d'autres sélections, même africaines. Hein.
Bien sûr, oui. Après, comme je l'ai dit, on fonctionne sur les dates FIFA. Il y a un calendrier qui est fait sur l'année. Et moi, entre-temps, il y a un travail, il faut savoir aussi qu'il y a un travail qui est fait en amont, parce que quand on est sélectionneur, la partie terrain est très peu. Le reste du temps, il faut regarder les équipes, visionner les matchs, aller rencontrer les joueurs, échanger avec eux, faire des bilans, relations avec les clubs, voilà. Et puis tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais après, comme je l'ai dit, et je vous le répète aussi, parce que sûrement vous n'êtes pas au courant, parce que quasiment nos joueurs, les joueurs qui sont sélectionnés, c'est du 99%, ce sont des joueurs qui jouent en Europe, quoi.
Oui. La médiatisation des joueurs comoriens, quand même, vu qu'elle est en Europe, est beaucoup plus facile. Mais est-ce qu'il y a une grande difficulté à faire une liste, à repérer les joueurs, les joueurs comoriens, pour faire une liste de 23 à chaque fois?
Non, elle est difficile dans le sens qu'on n'a pas un effectif pléthorique comme le Cameroun ou d'autres nations. Après, on a un effectif où forcément des joueurs jouent à des niveaux différents où je vais peut-être trouver des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2.
Il y a l'ancien Toulousain Ali Hamada, par exemple.
Oui, voilà, notamment Ali Hamada. Après, il y a actuellement un joueur qui marche sur l'eau, c'est Ben Fardou, Ben Mohamed, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Qui a failli marquer
contre le Paris Saint-Germain il y a une semaine.
Voilà, et c'est exactement ça. Et puis après, on a Fouad Bachirou qui joue à Malmö, qui joue à Ligue Europa, qui vient de tomber contre
Chelsea.
Chelsea, exactement. Voilà. Donc, on a certains joueurs qui apportent le groupe vers le haut. Après, on a des joueurs qui ont connu le haut niveau, comme Kassim Abdallah, qui était à l'Olympique de Marseille. Voilà, on a quand même une ossature. Mais par contre, dès qu'on perd un ou deux joueurs, c'est un peu plus compliqué pour nous.
Comment on effectue une liste? Quelles sont les difficultés? Quels sont les liens avec vos adjoints, Amir?
Alors déjà les adjoints ils viennent à la mission.
Ah oui.
Savoir qu'ils sont dans mon staff, j'ai un préparateur athlétique, j'ai un analyste vidéo, j'ai un entraîneur des gardiens, après j'ai le coordinateur sportif, le team manager, voilà, c'est un véritable staff où ils vivent actuellement en France. Et la difficulté, elle est que quand on veut avoir des joueurs, il y a un travail qui est fait, il faut pas être en retard, parce que savoir aussi, on prépare un match en Afrique, il faut s'attendre à tout, parce que faut pas de retard au niveau des courriers, des convocations, il faut être faut être en synergie avec les clubs. Voilà, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut gérer. Et ça, c'est le plus difficile, quoi.
Lucas
Cernic. Et surtout aussi les trajets aussi.
Est-ce que vous pouvez nous faire un point, s'il vous plaît, sur où en est la sélection des Comores ? Parce qu'il me semble qu'elle est un peu plongée dans un imbroglio, là, avec le Cameroun dans son groupe de qualification.
Ouais. Tout le monde, je pense, est au courant, parce que les médias en parlent. Actuellement, on est dans une poule de 4 avec le Cameroun et le Maroc et le Malawi. Et pour l'instant, on est positionné en troisième position. Et au départ, c'était le Cameroun.
Le Cameroun devait organiser
la CAN. Comment ?
Le Cameroun devait organiser la Coupe d'Afrique. Ça a été refusé, ça a été enlevé.
Ça a été enlevé, donc il y a un moment, parce que tout le monde en parlait, que ça devait être le Maroc, mais le Maroc c'est désisté. Il y a l'Égypte qui est en pole position avec l'Afrique du Sud. Et concernant le règlement, c'est que quand c'est par rapport à l'article du règlement qu'il y a au niveau de la CAN, de la CAF, quand vous avez une équipe qu'on lui retire l'organisation de la compétition, elle est automatiquement disqualifiée.
Donc ce qui voudrait dire que les Comores seraient qualifiés à l'heure actuelle pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, pour la première fois d'ailleurs.
Exactement. Si on suit le règlement, on est qualifié. On est qualifié sur tapis vert par rapport au Cameroun. Mais la CAF n'entend pas de cette oreille-là. Donc eux, ils sont dans le sens où ils disent qu'on ne veut pas leur donner une double peine.
Oui. Puis ce serait difficile de se passer du Cameroun aussi.
Voilà, se passer du Cameroun, on va pas leur donner une double peine.
Le règlement, c'est le règlement.
Le règlement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce qu'il faut faire. Là, on va faire un recours au TAS, au tribunal arbitral du sport, qui est basé à Lausanne.
C'est lui qui va décider.
Qui décidera qui tranchera pour la suite, quoi.
Mais sportivement, techniquement, vous pourriez encore vous qualifier.
En plus, vous allez jouer contre le Cameroun.
Ouais, sportivement, on peut se qualifier. Après, il faut savoir que le Cameroun, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas perdu à Yaoundé. Voilà, ça va être pour nous un match difficile, même malgré les difficultés qu'il peut avoir là-bas au pays. Mais sportivement, on peut encore se qualifier. On n'est pas éliminé, quoi.
Il y a le par rapport à cette affaire, le vice-président de la CAF, Constant Omari, a déclaré sur Canal Plus Afrique que ça allait être compliqué pour vous. Comment on le prend à quelques semaines, quelques mois justement d'aller au Cameroun ? Est-ce qu'on se dit le match il est joué d'avance, quoi ?
Bien sûr, vous avez donné la réponse. Il y a beaucoup d'arrogance de ces personnes-là et forcément, ils oublient ce qui se passe sur le terrain parce que, comme l'a dit Pape Diouf, c'est un manque de respect à l'adversaire. Et puis aussi, après, on peut parler aussi de corruption parce que.
Il y en a beaucoup dans le football africain.
Ouais, je pense, oui. Parce que moi, j'ai vécu sur certains matchs, notamment contre le Ghana, où on gagne 1-0 chez nous et on mène 1-0, un but refusé alors qu'il n'y a jamais hors-jeu. On perd au Maroc à la 97e minute, il y a 7 minutes d'arrêt de jeu. L'arbitre central est quasiment à 30 mètres et l'arbitre de touche ne lève même pas le drapeau. Alors que je ne sais pas comment il fait pour voir la faute. Voilà, plein de paramètres qui font que l'Afrique est compliquée. Je ne suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup de gens qui le disent. Il faut qu'on travaille dessus, quoi.
Est-ce que cette corruption empêche le football africain de se développer dans le monde ? Je pense principalement à la Coupe du Monde, où depuis 1930 et l'existence de la Coupe du Monde, aucun pays africain n'est arrivé en demi-finale. Est-ce que cette corruption, finalement, fait défaut au football africain ?
Oui, c'est parmi tant d'autres. Il y a d'autres facteurs, mais ça fait partie aussi de l'évolution du football africain. Après, il faut savoir aussi que quand vous regardez le football... Actuellement, les joueurs africains, ils jouent quasiment dans les meilleurs championnats au monde et forcément, c'est dommageable de pas avoir des équipes africaines dans le carré final, quoi.
On parlait de l'organisation de ce football africain et du fait que vous étiez dans une sélection qui avait quand même peu de moyens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre situation aussi contractuelle, parce que je crois que c'est un petit peu compliqué en ce moment.
Ouais. Après bon, ce sont les médias aussi. Mais après bon, moi j'ai, je sais qu'on a un échange avec la fédération. Il y a le comité exécutif qui est au courant de la situation. Ça a pris l'ampleur et c'est une affaire d'État. Donc là actuellement, on est en discussion pour un renouvellement de contrat. Et
c'est en bonne voie.
Forcément. Comment ?
C'est en bonne voie, le renouvellement de contrat.
Oui, c'est en bonne voie. Après, bon, moi, je ne me suis jamais inquiété. Après, comme je l'ai dit, bon, j'ai plusieurs possibilités. Si ça ne se faisait pas, j'avais des possibilités à partir en Afrique. Mais l'objectif, c'est de continuer avec ce groupe-là. Ça nous paraît étonnant,
il se passe des choses toujours étonnantes dans le foot, même en Europe, mais ça nous paraît étonnant qu'un contrat comme le vôtre se termine en cours d'éliminatoire alors que vous êtes engagé. Enfin, c'est ça qui interpelle. Est-ce que ça fait pas partie des choses qui clochent un petit peu aussi
Oui, après, bon, c'est de la maladresse aussi, parce qu'après, ça a été une sonnette d'alarme que j'avais tirée parce que, d'accord, en fait, le calendrier a été modifié. Pour les raisons pour Coupe du Monde, parce que au départ on devait jouer le dernier match au mois de novembre, mon contrat se finissait fin novembre, comme devaient se finir les matchs, et puis la CAF avait accepté la prolongation, FIFA a accepté la prolongation pour les
éliminatoires,
décaler les matchs au mois de mars, et un mail et un courrier a été fait auprès de la fédération. Et depuis le mois de mars 2018, qu'on n'a jamais eu de suite. Après, comme je l'ai dit, c'est de la maladresse des uns et des autres. Et puis bon, c'est partie du décor africain, quoi.
Du folklore.
En 30 secondes, l'objectif à venir donc pour les Comores, c'est clairement la qualification en Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce serait une grande première pour le pays.
Oui, on souhaiterait. Après, bon, sur le plan administratif, si on peut passer, ben on va pas se cacher. Après, sur le plan sportif, on aimerait passer. Mais après, comme je l'ai dit, il y aura les qualifications de la Coupe du Monde qui vont rentrer d'ici peu, quoi, aussi.
Est-ce que vous pouvez nous donner très vite fait aussi, s'il vous plaît, des nouvelles d'Ali Hamada, parce qu'on est à Toulouse ici quand même. On aimerait bien savoir ce qu'il vient, notre ancien portier.
Actuellement, on est un père de mercato qui va être ouvert. Donc là, il a plusieurs pistes et en espérant qu'il trouve un projet assez rapidement parce qu'il a fini par une année chaotique dans son ancien club en Turquie. Quoi.
On lui souhaite.
Amir, merci beaucoup.
De rien, merci d'avoir écouté.
Merci d'avoir été avec nous sur Radio Présence. Bonne continuation avec les Comores et désolé, merde pour les Comores pour la suite des qualifications. C'est déjà terminé. Merci à vous. Merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. Retrouvez dès demain à 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. On se retrouve l'année prochaine. Passez de très très bonnes fêtes avec Radio Présence. Joyeux Noël et bonne année. À l'année prochaine sur Radio Présence.
Au revoir, à l'année prochaine.
Au revoir.
Présence.
Retrouvez toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.fr.